Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui un humoriste pas comme les autres, un humoriste niçois déjà, mais c'est un humoriste aussi absurde, intelligent, surprenant, décalé, un humoriste qui écume les plateaux de stand-up du sud de la France depuis quelques années maintenant, qui a fait des grandes choses, mais je vais pas divulgâcher tout ce qu'on va se dire pendant cette interview. Bonjour à toi, Pablo Caillot.
Salut Yacine, merci de m'accueillir sur cette radio, ça fait plaisir.
C'est un grand plaisir de te recevoir donc chez Fréquence Mistral, parce que j'ai vu que t'as bugué au moment où il fallait dire
le nom.
Donc bienvenue à toi chez Fréquence Mistral. Est-ce que tu peux nous dire, Pablo, déjà moi je t'ai présenté rapidement, sommairement, on est toujours un peu pressé à la radio, est-ce que toi tu peux te présenter?
Je suis un petit peu issu. Alors, Maurice Nistois qui a grandi quand même dans le secteur. Mm-hmm. Quel plaisir de dire qu'il est marseillais, mais qu'il n'est pas vraiment parce qu'il a grandi à Miramas. On aimerait représenter cette ville, mais malheureusement, on est quand même à 45 minutes de route. Ouais. Et qui est après parti faire ses études à Nice. Et c'est là qu'il a rencontré l'humour avec une belle petite équipe, une petite brochette d'humoristes du azuréen pour le coup. Mm-hmm. Et du coup, c'est parti comme ça. On a lancé un petit peu nos plateaux. Et on a commencé d'ailleurs avec l'improvisation, qui est vraiment, je trouve, un secteur du Sud qui se développe super bien. Il y a une super ambiance. Et après, à fond quoi, dans l'humour, en ping-pongant entre Marseille et Nice.
Oui, mais effectivement, c'est vrai que tu écumes les plateaux avec souvent tes comparses. Hein. On pense à Miloud, Ariz, qu'on avait reçu ici. Et puis après, toute l'équipe de Grosse Prod, donc, avec qui tu as commencé le stand-up, c'est ça?
Complètement. Ouais, ça. On s'est donné les moyens. C'est drôle, on en parlait, c'est rigolo, mais souvent, l'humour dans chaque ville a son style, mm-hmm. parce qu'il dépend aussi de la circonstance géographique. Mm-hmm. Et Nice, on a commencé vraiment dans les plages, pour aller choper les gens dans des restaurants de plage et tout. Donc souvent, l'humour niçois, c'est beaucoup des animateurs presque. Ouais. Tu sais, on bouge beaucoup, on est là, on va chercher les gens parce qu'ils sont en train de manger des burgers, tu vois, c'est un petit truc.
Ouais, vous avez commencé dans des conditions, comme on appelle ça à Marseille, des bourbiers, quoi.
Exactement.
Vous avez commencé dans des plateaux compliqués. Justement, donc, toi, tu le racontes rapidement, mais moi, je voulais savoir comment tu as commencé le stand-up et surtout nous raconter ta première scène, parce que je suis curieux toujours de savoir comment les humoristes ont commencé.
Bah, c'est très drôle parce que moi, c'est toujours un truc qui me titillait. Mmh. Ça, c'est le classique du lycée. Et en fait, la première fois que je viens à Nice, je vais avec mon meilleur ami qui s'appelle Kevin, mmh. qui est quelqu'un qui aime beaucoup séduire. C'est un très, très grand séducteur. Et la première chose qu'il voulait faire à Nice, moi je voulais me balader, lui il voulait aller dans une soirée, dans un bar. Savoir qu'à Nice, les boîtes de nuit sont des bars. Hein. Mm-hmm. On est souvent connu pour le baraton, tu sais, on fait les tours des bars et tout. Et lui, il a un dicton qui dit, s'il y a un videur dans un bar, c'est que c'est un très bon bar pour séduire. Et on arrive dans le bar qui s'appelle l'Oxford Pub. Il y a un vigile qui en plus avait l'air bien costaud, donc il s'est dit, ah, il faut aller à cet endroit. On rentre et au moment où on rentre, t'as un gars qui fait bienvenue à la scène ouverte. Ça s'appelle le Vinyl Comedy Club. Voilà, c'est un open mic tous les mercredis et tout, donc je vois ça. On passe un petit peu l'heure à regarder et la semaine suivante, j'ai commencé à faire mon premier 5 minutes.
Ok, donc ça t'a direct motivé pour rentrer. C'était donc avec Grosse Prod au Oxford, donc c'est ça. Le bar du centre-ville de Nice.
Exactement, c'était okay. Un groupe qui s'appelait Vinyl avant et après c'est devenu Grosse Prod. Et c'était toute une petite équipe comme ça de gens qui faisaient vraiment ça pour le plaisir parce que c'était pas encore développé. On commençait à 23h30 devant plein de gens bourrés qui parlaient beaucoup anglais. Mais c'était les meilleurs souvenirs, quoi.
Ouais, bah oui, les premières scènes, c'est toujours celles qu'on n'oublie pas. Dans,
ah ouais,
dans...
un régal. Et,
bah justement, donc, dans ce bar, donc, l'Oxford, donc, t'as commencé avec Grosse Prod, donc c'est bien ça?
Ouais, c'est ça.
Ok, et alors cette première scène, dès que t'es arrivé dans le bar?
Eh bien écoute, justement, j'ai représenté Marseille. Pour le coup, je suis arrivé avec le drapeau, le maillot neuf, tu sais, avec de Drogba.
Ah oui.
En faisant croire que je m'appelais Pablo de la Street. Très mauvais surnom parce que voilà, je suis pas de la Street. Je suis banlieue normale et tout. Et j'ai essayé de faire mon premier 5 minutes. J'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Mm-hmm. J'étais tout fin comme ça. Et c'était très drôle parce que vraiment, les gens m'ont pris un peu par la pitié au début. Mm-hmm. Tu sais, souvent, on peut avoir les gens par le rire ou par la pitié. Mm-hmm. Et les gens, quand ils voient un petit jeune comme ça faire des petites blagues, trembloter, bégayer, comme ça, ils sont hyper gentils.
Empathie, oui.
Et en fait, j'ai trop kiffé, quoi. Ouais. C'était un bonheur. Je parlais du fait que j'avais vendu, j'avais confondu, oh, c'était une vanne nulose. J'avais fait confondu un service de pizza avec un service de massage érotique. C'était ma première blague.
Okay.
C'était Noël, c'était en famille. Voilà.
Bah, ça disait déjà beaucoup sur toi. Hein,
voilà, exactement.
On retrouve ton univers absurde dès le départ. Justement, tu as commencé donc au Oxford et tu as fait tes débuts là-bas. Et ensuite, comment ça s'est passé sur la suite? Raconte-nous un petit peu parce que toi, tu es un routier du stand-up parce qu'on te voit un peu partout. On te voit beaucoup à Marseille, mais c'est vrai que je te vois partir à droite, à gauche tout le temps. Tu bouges
ouais.
beaucoup.
Bah en fait on a la chance, il y a le, moi j'ai, on a commencé à Nice beaucoup, on a baroudé un peu sur tous les endroits, donc souvent on vient à domicile, on va dans les lieux, dans les restaurants, c'est là qu'on s'est un peu formé, et en fait partout en France il y a eu plein de plateaux qui s'est ouvert, à Marseille, à Montpellier, tu vas jusqu'à Bordeaux, Nantes, enfin c'est, et j'ai profité du TGV Max, tu sais c'est la formule, oui, tu peux aller à volonté, pour découvrir des villes que j'avais jamais connues de ma vie. Donc au final c'était les premiers voyages quoi. Donc tu prenais, au début c'était vraiment que du kiff, que du bonheur. Tu prenais ta journée, t'allais visiter la ville de Rennes. Tu dis waouh, putain c'est comme ça que ça marche. Et le soir tu faisais ta petite scène. Tu te rendais compte que des gens rient à Marseille d'une blague qui vont pas forcément rire à Rennes. Donc déjà tu commences déjà à te dire ok, il y a des blagues locales, tu sais. Et après petit à petit on a essayé de se professionnaliser. Donc commencer à se professionnaliser, c'est déjà commencer à se dire allez, comment on peut en vivre, tu vois. Donc à notre moindre mesure, donner des cours à des enfants, d'improvisation, de théâtre, faire des petits ateliers d'impro, des trucs comme ça, et commencer à jouer le spectacle.
Ouais, oui, parce que tu as un spectacle, justement, on va en parler, c'est l'objet de ta venue aujourd'hui, c'est donc ton premier spectacle de jeune artiste. Donc Pablo ne sait pas jouer de la trompette, donc une magnifique affiche avec toi et une belle, très, très belle trompette.
Magnifique trompette, ouais.
T'as payé 450 euros ce que
450 j'ai... euros cette trompette, ouais, pour payer à quelqu'un, et ça n'a pas marché.
Et donc du coup tu sais jouer de la trompette maintenant?
Toujours pas.
Toujours pas, donc
j'ai commencé à faire des petits cours, des petits ateliers comme ça, mais souvent c'est un instrument en plus qui s'apprend beaucoup sur le feeling. J'essaie de regarder des vidéos sur YouTube, j'essaie d'apprendre. Parce que pour le coup, si je l'ai, autant essayer d'être un petit Ibrahim Malouf de pacotille, hein, pour le coup.
Bah oui, je sais que j'ai un ami qui était au Festival d'Avignon l'année dernière et qui m'a dit que tu as vu faire une promo dantesque dans la rue où tu jouais n'importe comment de la trompette en distribuant des flyers, c'est ça?
Ah, je me régale, hein. J'arrive, je joue vraiment, c'est abominable. Hein. C'est vraiment, c'est. Et je passais comme ça dans les rues, donc t'en as qui kiffaient, qui ça faisait rire, d'autres ils disaient, faut vraiment arrêter, monsieur. Je dis, bah s'il faut arrêter, faut venir voir mon spectacle. Ils disent, bon, c'est bon.
Ouais, donc c'est comme ça que t'as réussi à racoler du public. Exactement. Pour venir dans le spectacle, c'est incroyable.
Et c'est drôle parce que du coup, je n'ai pas du tout en jouer et t'as beaucoup de gens qui sont venus en pensant que j'allais faire un spectacle de musique. Donc ils sont posés comme ça avec leur fils qui est trompettiste, on dit ouais, tu vas voir, on va avoir un cours. Et en fait j'ai fait une heure du blague, ils sont arrivés à la fin, ils ont bien aimé, mais ils se sont dit on n'était pas du tout venu voir ça quoi.
Ah oui, ils ont même pas compris l'objet de ça devait être bien sympa, ouais.
C'était marrant, ça c'était.
Ouais, bah c'est vrai. Donc ce spectacle, ce premier spectacle, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire, de le jouer?
Eh ben en fait c'est une expérience qui m'est arrivée. Donc je parle en fait d'un rendez-vous amoureux que j'ai eu pour la première fois de toute ma vie, qui a commencé à l'âge tardif de 25 ans. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai un rendez-vous amoureux qui a été une catastrophe monumentale. Mais l'aventure était vraiment belle à vivre, plein de stress, plein de pression, plein d'angoisse, de névrose, tout ça. Et j'ai appris beaucoup de choses avec mes peurs. Et en fait, du coup, sur une heure, j'explique toute cette histoire que j'avais absolument envie de raconter. Au début, souvent, quand on commence à faire nos premières blagues, on a des petits blocs d'idées comme ça. On dit, allez, on va parler des profs, on va parler nanana. Et là, en fait, quand tu as une histoire comme ça qui est géniale et qui en dit long sur qui on est, puis c'est toujours parce que ça des fois, tu sais, je parle du coup de cet amour tardif. Mais t'as des gens qui n'ont pas eu d'amour tardif, mais à qui ça peut toucher. Parce que c'est vrai qu'on peut vite être pris de panique face à quelqu'un qu'on aime beaucoup, quoi. Et donc j'ai décidé de raconter toute cette histoire qui n'a été qu'une énorme péripétie un peu malaisante.
Bah ça c'est t'aimes bien le malaise sur
exactement,
scène.
J'adore.
Je vois que t'adores installer ça. Mais justement, bon, je suis obligé d'en parler, mais tu es passé sur t'as eu la chance donc de passer sur Rire et Chanson, pour avec un sketch Je suis puceau, c'est bien
exactement,
le titre du donc t'as quand même toute la région qui a entendu ce sketch en entendant que t'étais puceau.
Encore plus que ça, c'est mon père l'a appris en écoutant la radio à midi. C'est-à-dire que moi j'en ai jamais parlé à mes parents de ça.
Non.
Je te jure, c'est vrai. Et un jour, tu sais, il savait que j'étais passé sur Rire et Chanson et je lui ai pas dit à quelle heure je passais. Donc lui, tous les jours, il mettait la chanson. Il disait, je vais bien savoir. Et je lui ai pas dit de quoi ça parlait. Il est arrivé, s'est tapé 7 minutes. Il était en blablacar avec des potes du travail.
Mais non.
Il partait au travail et il a entendu 7 minutes de son fils qui dit qu'il est puceau. Et je peux te dire qu'il m'a, bah, il m'a appelé le soir même. Il était très très mal à l'aise, mais c'était très drôle.
Ah oui, il était mal à l'aise.
Et d'ailleurs, il m'a pas cru. Il m'a dit, tu fais ça pour le sketch. Je dis, non, c'est vrai. Il m'a dit, ah, c'est ça, tu fais ça pour le sketch.
Dis-le que t'es un gros baiser.
T'es un gros baiser. Il y a des gens à côté de moi, d'accord. Bon. Mais du coup, voilà.
Ah ouais, donc incroyable. Donc, ils ont découvert ça et en même temps, toute la région. Mais
c'est ouais, c'est ça, voilà.
Tu en parlais un petit peu sur scène du fait que les gens te reconnaissaient et disaient, c'est le puceau
c'est
et tout.
Puceau.
C'est incroyable, ça. Donc, ouais, bah, c'est une belle découverte. Et c'est vrai que c'était courageux de le jouer en premier sketch sur Rire et Chanson.
Ben, complètement. Et en plus, c'était dur parce qu'à cette époque-là, j'étais surveillant de collège. Et je me rappelle, je faisais en sorte sur les réseaux sociaux de rester anonyme sur ce genre de sujet parce que si le collège apprend qu'il y a leur surveillant et puceau et tout, ça allait vanax.
Ouais.
Et du coup, un jour, ils l'ont vu. Alors, il y en a qui l'ont écouté sur Rire et Chanson. Et il a fallu désamorcer ça, commencer. Enfin, c'était un long parcours. Et du coup, j'ai dit, bah, en plus, c'était pile quand j'ai arrêté d'être surveillant. Parce que je me suis dit.
Ouais, c'était le moment de quitter le collège.
C'était le moment de quitter le collège. Et voilà, de faire une petite vie.
Ah ben, incroyable. Et c'est vrai que donc, du coup, tu as écrit, excuse-moi, je perds mes moyens. La question suivante, en fait, elle est forcément du coup raccord avec ça. Mais l'inspiration, elle te vient d'où, Pablo?
Ben écoute, l'inspiration, elle vient bon, déjà de vécu personnel, quel qu'il soit. Mais surtout, je trouve que moi, j'étais souvent animateur de Coïn Vacances. Donc, ça inspire beaucoup de voir... En fait, c'est un premier job extraordinaire animateur parce que moi, quand j'étais un adolescent et j'ai commencé à travailler, j'étais un peu encore un adolescent. Mmh. Ce qui fait que j'avais l'autorité sur des gens qui, pour moi, avaient la même tranche d'âge mental.
Ouais, ouais.
Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a été tellement des expériences terrorisantes au début d'avoir autant de responsabilités. 80 gamins qui sont peut-être parfois plus matures que moi.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire vraiment, j'avais des gamins plus matures que moi. C'était un délire. Et toute cette aventure m'a énormément appris et m'a mis des coups dans la gueule de devenir un adulte très rapidement. C'est là justement que je suis tombé amoureux, vraiment, je ne m'y attendais pas. Et moi qui étais vraiment un peu un petit faillot dans ma vie, j'ai un bon sacré faillot, j'ai toujours été un peu dans les jupons de mes parents. Là, j'ai un peu pris mon indépendance et j'ai vécu beaucoup de choses intenses. Donc c'est souvent cette phase-là de vie qui m'a donné envie d'écrire ce spectacle.
Ouais, qui te nourrit aujourd'hui et qui te donne envie de continuer dans tous les cas.
C'est ça.
Justement, en termes de public, Pablo, toi, comme je dis, tu es un routier du stand-up, donc tu vois beaucoup de public, hein, comme Miloud d'ailleurs, qu'on salue. Est-ce que tu vois des différences, des grosses différences justement entre les publics, bah, typiquement de la Côte d'Azur, de Marseille du Nord? Qu'est-ce que tu sens comme différence?
Bah, c'est très drôle parce qu'on peut souvent dire Sud et Nord, mais en fait, moi je trouve que Marseille est un des publics les plus chauds, bouillants, quoi. Mais surtout parce qu'en fait, il y a une mentalité de vanne, d'ambiance, de punchline, d'autodérision qui fait que le public est aussi drôle que les humoristes qui sont en face d'eux. Donc forcément, ils sont moins à l'écoute parce qu'ils ont, ils ont envie de rebondir.
Ouais.
Donc souvent, on l'a vu au garage, hein, l'ambiance qu'il peut y avoir dans un lieu comme ça, c'est... Parfois, même l'humoriste, il se fait dépasser, quoi. C'est un délire.
C'est vrai que c'est ce qui arrive souvent au Garage Comédie. Moi, je sais que j'y officie en tant que maître de cérémonie, MC. Et c'est vrai que souvent, les interactions avec le public, tu parles avec les gens et les gens sont 100 fois plus drôles que toi. T'as juste à répéter ce qu'ils ont dit pour faire rire. Parce qu'en fin de compte, ils sont souvent... On tombe sur beaucoup de phénomènes à Marseille, comme on dit.
Ah, c'est pépite, hein. Franchement, c'est un bonheur. Et puis dans la vie, les gens sont... Tu sais, c'est vraiment... Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup là, je trouve, il y a une effervescence des humoristes marseillais qui deviennent vraiment des références françaises. Surtout là, toute l'équipe qui commence à éclore.
Ouais.
Parce que en fait, on est rempli de gens drôles, vivants, que ce soit dans la restauration, dans le commerce.
Ouais.
Partout, t'as des gens hyper intenses, tu vois. Hier, on était dans un truc d'impro. C'est des gens qui font des métiers... Les gens sont intenses, quoi.
Oui, c'est de l'intensité. Ben, c'est vrai on a eu la chance de partager une belle soirée d'impro hier au Marseille Comedy Club.
C'est génial.
C'est vrai que c'était incroyable de voir des gens, même les premiers passages. On sent qu'il y a une énergie à Marseille qui fait germer cette chose-là. Donc, du coup, on va quand même parler d'autres choses importantes dans ta carrière, dans ta jeune carrière. C'est que tu as fait une belle rencontre au Bobard Comedy Club à Nice, non? Avec un grand humoriste.
C'est ça, exactement. Ouais. Alors, c'était pendant un festival qui s'appelle L'Humour à la plage, d'ailleurs, qui est dans 15 jours... je sais pas quand est-ce que c'est ça, c'est à peu
c'est
près
diffusé demain en régional,
dans 14 jours exactement, qui est un festival d'humour présenté par Kev Adams. Il fait venir des copains à lui, et ils sont venus tester des blagues au Bobard parce que c'était l'occasion de tester les blagues avant le festival, dont un humoriste s'appelait Jarry, qui est humoriste francophone un peu connu, et du coup il m'a repéré sur ce plateau et il m'a dit, écoute, j'ai bien aimé ton univers, je t'embarque sur les premières parties de mon spectacle, et c'est parti comme ça, c'est-à-dire vraiment un mois plus tard j'ai commencé à faire ces premières parties. Et il a décidé de me produire, donc maintenant je le suis un peu sur ses tournées et c'est vraiment un bonheur parce qu'il est, plein d'expérience et de conseils. Et c'est surtout, en fait, il est fou, quoi.
Ouais.
Sur scène, il faut le voir.
C'est beaucoup d'interactions, j'ai jamais vu son spectacle, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup d'interactions avec le public, c'est bien ça?
Bon, en fait, c'est très drôle parce que lui, c'est un gars qui a besoin d'être proche des gens. Mmh. C'est-à-dire que tu vois ses premiers spectacles, il est dans des petites salles et vraiment, il joue à 10 cm des gens, il va les chercher, il va leur parler. Et quand maintenant, il fait des grandes salles de Zénith, tout ça, il continue à le faire. C'est-à-dire qu'il sort, il va jusqu'au bout du Zénith voir les gens, les rencontrer. Il a besoin vital d'être collé à eux. Donc c'est vraiment un bordel pendant 2 heures. Ça dure 2 heures son show. C'est vraiment quelque chose à voir.
Bah, écoute, c'est vrai que tu dis, tu parles de première partie modestement, mais il faut le dire aux auditeurs, auditrices qui nous entendent, c'est des premières parties de Zénith. Donc
oui, c'est
avec, devant des publics de 1500, 2000 personnes. Non,
voilà, c'est ça. Ouais.
Et donc, ce n'est pas des petites premières parties d'un humoriste connu, c'est des très grandes premières parties. Justement, toi qui officie dans les comedy clubs et qui, comme nous tous, fait beaucoup de underground ou de restaurants, c'est-à-dire de sous-sol, etc., qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es retrouvé pour la première fois sur une scène avec plus de 1000 personnes? Ça doit être dément, non?
Au début, c'est impressionnant parce que t'es pas habitué à l'intensité qu'il faut avoir pour contaminer une aussi grande salle. C'est-à-dire que les gens, en fait, si tu te donnes pas la sensation de leur parler à eux, au jeu, hein, c'est vraiment une personne, alors qu'il y en a 1000, donc il faut vraiment être intense, il faut aller à gauche puis à droite. Il faut être tout, en fait, pendant 10 minutes, il faut être gainé, quoi. C'est un truc, c'est assez impressionnant. Alors, j'imagine pendant une heure, deux heures de spectacle. Et vraiment, ce que ça m'a appris, c'est à quel point il faut être précis dans les mots. Parce que souvent, on dit plus il y a de monde, moins il faut les faire réfléchir. Parce que, en fait, il faut que la vanne fasse rire les 2000 personnes en même temps. Donc, il faut être le plus précis, le plus simple possible pour que les 2000 personnes la comprennent au même moment et rient au même moment pour pouvoir avancer dans le spectacle. Sinon, ça fait des hi-ha-ou hi un peu éparpillés.
Ah ouais, donc, tu ne peux pas laisser de temps de repos entre le moment de la chute et le moment où elle est comprise, quoi.
C'est un sacré délire. Alors que dans les petits comedy clubs, c'est tout aussi cool, hein, parce que tu peux vraiment prendre le temps, avoir des trucs, des repenses. Enfin, c'est notre...
Et laisser des silences qui laissent au public le temps de comprendre et de rigoler en décalé, des fois, ce qui est génial aussi à voir.
Ah, c'est complètement, c'est ça, ouais.
Et ben justement, maintenant que tu es dans cette boîte de prod, donc tu es un des rares artistes du sud de la France aujourd'hui à être produit, et tu as donc un grand humoriste qui te chapeaute, donc un écosystème. Qu'est-ce que tu dirais, enfin, quelles sont les leçons que tu donnerais ou que tu as reçues, tu penses, qui sont le plus importantes sur ce changement, on va dire, d'écosystème?
Dans le changement d'écosystème, bizarrement, ça, ce qui évolue, c'est juste se concentrer plus sur souvent, c'est un milieu où l'humour en général dans les comedy clubs, souvent, c'est un train de vie très intense parce que en fait on passe nos soirées à jouer et après en fait je trouve que quand tu travailles dans une production t'apprends à te concentrer sur comment vraiment diffuser du rire dans toutes les formes possibles. C'est-à-dire que c'est pas que 7 minutes le soir, c'est réussir à dire allez, comment je peux faire en sorte que faire du bien à des gens en général, que ça soit sur les réseaux, que ça soit dans la vie. En fait c'est impressionnant comme généralement les gens qui produisent, ils ont vraiment un besoin vital de tu sais, c'est une passion, quoi. Et du coup moi ça m'a fait un peu ce déclic là c'est à dire qu'ils te mettent la pression en te disant bon tu t'amuses pour toi, des fois tu joues pour toi, là maintenant il faut que tu apprennes à jouer pour les gens. C'est un métier, c'est pas tu viens raconter des trucs personnels et les gens rient ou rient pas. Ton travail, si tu veux en vivre, c'est vraiment de faire en sorte que les gens passent du bon temps, passent à autre chose. C'est vraiment, en fait, c'est un... on est là pour les gens plus que pour nous-mêmes.
Oui, bien sûr. Voilà. Et on est un divertissement, il ne faut jamais l'oublier.
Exactement.
Hein. On fait des blagues avant tout. On n'est pas là pour opérer des gens à cœur ouvert.
Oui, c'est ça, exactement.
Bah, écoute, c'est génial. En tout cas, félicitations parce que ça, c'est une expérience, je pense, qui va être importante pour toi sur le reste de ta carrière. Donc, la question qui suivait quand même, c'était est-ce que ça a changé ton regard sur la scène, justement, de changer quand même complètement de dimension?
Y a un truc, mais après ça c'est vraiment du coup dans le style. Je trouve ce qui est plaisant, c'est le lâcher prise. C'est souvent très dur parce que souvent c'est impressionnant de jouer devant des gens. Moi j'avais toujours la tendance à dire, quand tu joues devant des gens plus grands que toi en âge, souvent je me dis mais qui suis-je pour donner mon opinion. Et en fait il faut s'éclater, et souvent je pense que le fait de prendre du plaisir personnel sera forcément un diffuseur de plaisir pour les gens.
Oui, bien sûr.
Et ça m'a appris ça. Donc ça, tu peux aller plus loin, au lieu de juste raconter quelque chose, joue-le. On a l'impression qu'on est forcé de jouer avec un micro, lâchons le micro. On est forcé de jouer sur une scène, sortons de la scène, tentons des trucs, tu vois. En fait on est tout est illimité, on peut aller plus loin que ce que l'on... J'ai bégayé.
Illimité, comme le Meunier avait sécu à nous faire.
Exactement.
C'est magnifique. Donc, c'était quoi le... Bon, on revient quand même sur ce spectacle. Donc, ce premier spectacle, c'était quoi les défis pour toi à relever, justement, pour réussir à faire une heure? Puisque, je le dis, t'es un aficionado des comedy clubs, tes passages fonctionnent très bien. Mais il faut le savoir pour les auditeurs et auditrices qui nous entendent, un humoriste en comedy club sur un plateau, donc c'est-à-dire avec plusieurs humoristes qui s'enchaînent, c'est un humoriste qui va faire donc un condensé de ses blagues de manière très intense. Si on comparait ça avec du sport, un spectacle, c'est un marathon, et un plateau de comédie club, c'est un sprint. Donc comment t'as fait justement, c'était quoi les défis pour toi de passer de ce sprint de 10 minutes à un spectacle d'une heure établi, peut-être même plus?
Bah c'est vrai que du coup sur une heure, ce qui est chouette, c'est que t'as plus le temps d'être sincère, honnête avec les gens. C'est-à-dire que quand tu fais 10 minutes, en fait, c'est à la base les comedy clubs, ça existait pour faire de la promo. Donc en fait, tu fais une bande annonce. Tu veux bombarder pour essayer de faire le plus rire possible. Et c'est vrai que tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux écrire pendant des années, des années. À une heure, il y aura forcément des moments un peu plus calmes, des moments où les gens ils ont besoin de souffler. En fait, c'est aussi c'est vraiment plus une rencontre sur une heure. Donc je pense que le défi, c'est de se dire moi je veux que les gens quand ils viennent, ils vivent une histoire, ils se sentent concernés par quelque chose et ils ne subissent pas que du rire. Parce que le rire ça va, mais en fait on est là pour délivrer des émotions. Et je trouve que même les gens qui viennent voir des blagues, ils ont aussi besoin d'avoir d'autres émotions, de la colère, du rire, plein de choses, d'être un peu chamboulé. Donc je pense que le défi, c'est de leur proposer plus que ce qu'on leur propose dans un comedy club.
Ok, donc d'aller, c'est une option en plus avec toi, ou en tout cas de creuser beaucoup plus profond sur ce qu'ils ressentent.
Ouais, c'est ça, essayer de les amener sur autre chose. Et même, ce qui est génial, je trouve, c'est les faire rentrer dans l'histoire, tu vois, d'interagir plus, vraiment de faire, en fait, de vivre une rencontre pendant une heure.
Ouais, de parfois, vraiment connecter avec eux.
Ouais, c'est ça. Ce qui fait que moi, j'aime bien l'idée de me dire que c'est un fantasme, mais qu'à la fin du spectacle, on ait vraiment envie d'échanger, d'aller boire des coups, de se revoir le week-end, faire un pique-nique, et peut-être d'être adopté par eux, tu vois.
C'est, ouais. Ça serait, ouais, je trouve que c'est souvent ce qu'on ressent avec les grands humoristes, c'est que quand on les voit sur scène, on dit oh, j'aimerais bien être ami avec lui.
Mais c'est ça, ouais. Même, tu vois, c'est le faire, du coup, pour le coup. Ça, c'est génial d'échanger après. Moi, je kiffe de fou.
Ouais, de connecter avec les gens derrière et d'avoir un moment avec eux pour pouvoir échanger après le spectacle.
Bah, c'est ça, parce qu'au final, il t'apporte plein de choses en termes de. Tu vois, moi, en fait, je me confie sur des choses dont j'ai pas les réponses non plus, aussi dans mon spectacle. Et parfois, je discute avec des gens à la fin qui ont les réponses à mes questions dans mon spectacle et qui m'aident énormément dans ma vie personnelle.
Ouais, et des fois, on tombe sur des gens qui nous font des remarques complètement racistes ou incroyables. Et ça aussi, c'est des bons moments parce qu'on en rigole derrière.
Ah,
on en
reparle. Malade, hein. Ouais. Ah, de fou malade.
Ouais, je sais que j'ai une dame à la sortie d'un comedy club la dernière fois qui m'a dit oh, c'est bien ce que vous avez dit sur les gollums à Marseille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gollums à Marseille, il y a beaucoup de gollums. Et en fait, j'ai compris qu'elle voulait dire les arabes en fait.
Ah, mais oui, d'accord,
du coup, okay, c'était complètement raciste. Et genre, j'avais cette discussion avec elle, je me dis mais à quel moment de ma vie je me retrouve à avoir cet échange avec quelqu'un? Non, c'est improbable, c'est des bons moments.
Ah putain, mais ça, ouais, t'as toujours des trucs comme ça.
Ouais, c'est génial. Mais après, c'est bien, j'ai eu des gens qui m'ont touché les cheveux aussi en sortie.
C'est vrai? Ouais. Genre normal comme ça, tranquille.
Je mets la main dans les cheveux, mais j'ai l'impression d'être un teckel un peu. C'est des bons moments aussi. Ah. Toi, en tant qu'humoriste, t'es arrivé sur scène, donc t'avais cette envie, tu le disais, dès le début, dès le lycée. Est-ce que t'avais des inspirations, des humoristes en tout cas, qui t'ont nourri ou qui t'ont vachement inspiré dans ta manière de faire?
Bah, complètement. Bah, tu sais, moi j'ai grandi avec un bon binôme bien rigoloto, c'est les Eric et Ramzy. Ça, c'est des petites pépitos. En fait, moi j'adorais, au-delà de leur folie sur scène, ce que je trouvais fou, c'était à quel point en fait on les appelait pour foutre le bordel dans les endroits. Tu sais, souvent ça se fait plus maintenant dans les émissions, tu vois, quand on les appelait juste pour lancer de la farine sur des gens et partir en vrille, ça n'existe plus, ça.
Et créer des séquences, comme on dit, dans
des séquences cultes. C'était vraiment des gens qui étaient là pour détendre l'atmosphère. Et moi j'ai adoré cette folie là qui s'est inspirée du coup d'une génération que moi qui m'a fait grandir, c'est YouTube avec Mister V. Grosse ref, Mister V.
C'est toujours très bon, hein. C'est comme les Beatles de l'humour, lui. Il a réussi à faire sur 10 ans que du bon, quoi. Genre, c'est incroyable.
Ah, c'est un bonheur. Et il a marqué une génération de gens, du coup, de jeunes. Et c'est drôle, comme on sera forcément des références qui seront datées dans 20 ans.
Ouais.
Et nous, on dira, ah, t'as pas connu Mister V, alors que maintenant, on nous dit, t'as pas connu des. Enfin, si, il y en a des Louis de Funès et tout, des gens hyper connus.
Ouais, Thierry Le Luron, moi, je trouve que c'est bon.
Thierry Le Luron, bah oui, Thierry Le Luron, c'est un peu le gars que. Pas beaucoup de gens connaissent maintenant quand ils ont 14-15 ans, alors c'était des big rêves, quoi.
Oui, c'est ça, c'était hyper important au niveau de l'humour, tout le monde avait ses phrases, etc. Mais maintenant c'est daté un petit peu, quoi, quand on en parle.
Bah ouais, c'était. Mais il y a plein de pépites comme ça, et en fait, moi je crois la grosse rêve, et c'est fou parce que tout à l'heure je regardais, c'est Pierre Richard.
Ah oui.
Pierre Richard, c'est le. Moi j'aime bien les clowns un peu qui se mettent un peu à la menthe, comme Charlie Chaplin, c'est un peu dans ce style-là. Et je regardais, Pierre Richard, il est encore en train de faire des spectacles, il a 90 ans.
Ah, ça, je savais pas qu'il continuait de se produire, par contre. Alors, ça, tu m'apprends quelque chose. Il continue de faire des salles, de remplir des salles.
Il avait un spectacle là il y a 2 mois, et là, il sortait un film là. lui qui a réalisé un film.
C'est incroyable.
Et le mec a 90 balais, genre, je me dis, c'est
un vampire. Comment ils font pour tenir? C'est incroyable. Hein. C'est... Déjà, quand tu sais l'énergie que ça te demande à notre âge, mais tu te dis à 90 ans, on sait pas d'où ça vient, quoi.
Ah, c'est fascinant. Et puis, je me dis surtout, ça doit être hyper intéressant de voir l'évolution de ce que tu as envie de raconter quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 et 90 ans. Ouais. Ça doit être tellement fou, genre tu dois tellement prendre du plaisir quand t'es sur scène.
Ouais, je me demande si c'est un cercle et tu finis par vouloir raconter les mêmes choses que tu voulais raconter quand
t'étais très haut. Oui, ça redescend, tu sais, dans la gaminerie de plus en plus.
C'est ça. 90 ans, tu commences en parlant de ta teub et tu finis en parlant de ta teub. Au final, c'était juste un cercle.
Il y a juste le milieu où tu commences à parler philosophie et tout. Après, c'est la descente aux enfers.
Après, ça revient. On repart sur le même sujet.
Oh, c'est drôle ça.
Mais ça, c'est ça serait un vrai concept d'étudier les sujets. Justement, je voulais parler de futur quand même, parce qu'on a parlé de passé, mais de futur, toi dans 10 ans, Pablo Caillot, où c'est que tu te vois en tant qu'humoriste ou en tant qu'humain tout simplement?
Ah, en tant qu'humain, moi je kifferais, il y a un domaine que j'aimerais exploiter le plus possible, c'est l'improvisation.
Ah oui.
Je trouve que c'est un truc qui est vraiment fantastique, qui commence un peu à éclore. C'est ce truc là de vraiment avoir des spectacles où on sait pas du tout ce qui va se passer, ce qui fait que t'as des gens qui ont envie de revenir tout le temps parce que ce sera jamais la même histoire. Moi honnêtement dans 10 ans je me souhaite de tâter un peu le terrain des vidéos et surtout là on est dans le milieu du stand-up, c'est très individuel, c'est aussi une mode et je pense que l'humour va prendre des formes hyper différentes. On va jouer sans doute avec plein de choses, en fait c'est pour ça qu'on sait pas du tout, sans doute qu'on va ping-ponger avec de l'IA, on va jouer de plein d'humour, on va jouer surtout ensemble. Moi j'ai hâte qu'il y ait des troupes qui se recréent, tu sais, un peu comme les inconnus, tous ces choses-là.
Les inconnus ou plein d'autres, le Palmachot, moi je pense, en plus récent, effectivement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que les youtubeurs l'ont fait à une époque avec. Ils avaient monté justement un collectif de youtubeurs où ils se retrouvaient tous pour travailler ensemble. Et c'est vrai que je sais que le Marseille Comedy Club, Sébastien Meilly en avait parlé justement de recréer cette énergie de groupe. Puisque c'est vrai que le stand-up est un sport individuel, mais qu'on peut jouer en groupe. Et effectivement, on espère que ça se lit. Donc, toi, le futur, c'est avec des gens en groupe.
Bah, je pense que c'est chouette de se développer tout seul. Mais quel bonheur, en fait, et tout ce qu'on peut faire à plusieurs en humour. Et je pense que avoir une petite des petites équipes comme ça qui se créent, qui créent des contenus ensemble, je pense que ce serait la régale dans quelques années.
Donc c'est ce qu'on te souhaite en tout cas pour les prochaines années.
Beaucoup.
Pablo, pour te retrouver donc en spectacle, puisque je le rappelle, tu fais ton premier spectacle, donc Pablo Caillot ne sait pas jouer de la trompette, donc magnifique spectacle que tout le monde m'a recommandé, j'ai malheureusement pas eu encore la chance de venir te voir, mais je vais essayer de venir te voir. Est-ce que tu peux nous donner les dates pour venir te voir justement et passer un bon moment avec toi pendant une heure?
Mais carrément, je joue, si vous écoutez ce jeudi, je joue ce jeudi-là, soir, c'est à 19h30 au Marseille Comedy Club.
Donc le jeudi 12
c'est ça.
Juin.
Jeudi 12 juin dans une nouvelle salle du Marseille Comedy Club en souterrain qui va accueillir plein de spectacles à la rentrée.
Génial.
Donc je joue le jeudi 19 et la semaine suivante, le jeudi 12 et le jeudi 19 juin.
Okay.
Donc c'est la semaine prochaine à 19h30 également.
Génial.
Donc ce sera mes deux dates à Marseille. Et après, je file direction Avignon pour le festival où je jouerai au Théâtre de l'Observance, qui est un bout de rempart, à 21h.
Oui, j'ai vu un peu passer. Donc, Festival d'Avignon, Marseille Comedy Club, et ensuite, je pense qu'on te retrouvera un peu partout,
complètement.
En France et ailleurs. On peut te retrouver sur les réseaux également?
Exactement. Moi, généralement, sur Instagram, YouTube, je fais des petites vidéos. Donc, c'est Pablo Caillot, pour ceux qui le veulent, comme mon prénom et nom. Et je pars dans plein de petites aventures. Souvent, là... Internet, ça permet en vidéo d'amener encore plus d'absurde et de folie. Donc ça va être un bonheur et justement de partager des vidéos avec les copains aussi.
J'ai vu tes vidéos et je recommande particulièrement aux gens d'aller les voir sur les réseaux sociaux, donc de Pablo Caillot sur les réseaux sociaux, parce que vraiment on sent que c'est inventif, on sent l'absurdité, surtout on sent tout ton univers recoupé dans quelques petites vidéos pastiches, toujours excellentes quoi.
Ça régale, c'est un bonheur. Toi aussi, j'ai vu que t'en faisais des pas mal.
Ouais, je travaille. Il y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où j'ai pas envie, mais de tenir le coup. Hein. Ben merci en tout cas, Pablo, d'être venu dans nos studios. Régale-toi avec le public marseillais, régale-toi avec le public avignonnais de France, de Navarre, avec partout. Et bonne continuation à toi.
Ben merci, ça a été un régal. Merci à toi.
On termine en musique et excellente journée à toutes et tous sur Fréquence Mistral ou ailleurs.
Me cansé de esta tristeza, llorarte un río. Sentir esta pena pegada hasta en los bolsillos. Buscaré en personas que llenaran el vacío. Buscar amor romántico sin ningún sentido. Decidí ser feliz bailando sola aquí, a mi manera, a mi forma, con mi norma, en mi rol, en mi bola, muy piola, como loca a mil por hora. Volver al centro, volver al eje y a lo perfecto, al epicentro, el núcleo, el hueso, ternurita que va meciendo. Y abrazarse para nunca soltarse, estremecerse, autocuidarse, parse. Quererse es clave, pase, llave para nunca abandonarse. Amor propio, amor del bueno, amor completo, amor sin freno, seguro sin veneno, sin trueno y sin miedo. Amor pleno, amor sereno, que te acompañe en la calma, en el alma. Tira pa' fuera lo que te daña. Qué ternura yo siento, qué fueguito acá adentro. Ilumina todo este incendio que recorre tu y todo mi cuerpo. Qué ricura presiento, locura del momento que mueve mi centro. Un movimiento, un sentimiento que cura lo malo y que llena y se va.
La buena, quién sabe qué puede pasar. A veces me he perdido en medio de este mar, que me pueda ayudar, y tuve que aprender a volver a amar, a amar. Me cansé de esta tristeza, llorarte un río, sentir esta pena pegada hasta en los bolsillos. Buscar en personas que llenaran el vacío. Buscar amor romántico sin ningún sentido.